19h, Time Sport, avec Guillaume Ascari sur Beurre FM.
Chère auditrice, chers auditeurs de Beurre FM, c'est un plaisir de vous retrouver comme chaque soir, évidemment, pour parler de l'actualité football, mais pas que, puisqu'évidemment, aujourd'hui, on va parler de VTT avec notre invité Bruno Brancato en deuxième partie d'émission. On va surtout parler de partenariat, notamment en marge de la Super Coupe de la Confédération Africaine de Football. Voilà, Doha, remporté par le Raja Club Athletic de Casablanca et l'Espérance Sportive de Tunis. Voilà, il y a eu un partenariat. On en parlera également dans cette émission. On parlera aussi de Marc Overmars, le directeur de l'Ajax Amsterdam, voilà, qui pourrait aussi faire un partenariat, enfin qui confirme un probable partenariat avec le FC Barcelone. Et enfin, on parlera de la Ligue 1, notamment du match du lundi entre Saint-Étienne et Nîmes. On reviendra également sur la Coupe de France avec Lyon-Rennes, c'est ce soir, 21h10 au stade Groupama Stadium. C'est parti pour Beurre FM.
Time Sport.
Et c'est parti pour Time Sport avec les consultants. Claude Tollet, comment il va notre coach ?
Bonsoir tout le monde, ça va impeccable.
Eh bien impeccable, Guillaume. C'est toujours impeccable. Voilà.
De te retrouver.
Simon Balachev, comment ça va Simon ?
Plus vieux, mais ça va bien. Buona noche, buona noche.
C'est vrai que c'est rare de voir la pluie dans ces derniers temps. Si Yacine Boili, ça fait un moment que tu n'étais pas venu. Comment ça va Yacine ?
Ça va, tranquille. Hein. Mais à part la pluie qui revient...
Eh ben ouais, mais maintenant on espère que tu vas nous apporter le soleil. En tout cas, on enchaîne tout de suite avec le partenariat et le ras-le-bol.
Time Sport, le ras-le-bol.
Et oui, puisque en marge de la Super Coupe de la Confédération africaine de football à Doha, voilà, remportée par le Raja Club Athletic de Casablanca, face à l'Espérance sportive de Tunis, la Fédération royale marocaine de football et la Fédération du Qatar ont conclu un accord de coopération et de partenariat. Voilà, cet accord signé entre les deux fédérations porte sur le renforcement de la coopération entre les deux pays. C'est ce que précise un communiqué de l'instance marocaine de football. La question qu'on pourrait se poser, c'est au-delà de la portée sportive de cet accord, ne se place-t-il pas plus sur le terrain diplomatique, voire politique, compte tenu de la situation du Qatar dans cette région du Moyen-Orient ? Un petit mot sur ce partenariat, Claude ?
Des partenariats, t'en as à tirer à rigot dans le monde. Après, pour en revenir...
C'est plus politique que sportif.
Bah, clairement, c'est plus politique que sportif. Moi, déjà, d'un point de vue sportif... Je trouve ça décevant, mais bon, c'est dans l'air du temps visiblement que cette super coupe ait lieu à Doha, alors que je pense que le continent africain a besoin d'avoir ses compétitions sur son continent pour plusieurs raisons. Maintenant, bah écoute, ça va permettre à la fédération marocaine d'avoir plus de moyens, peut-être permettre, je sais pas. Enfin après, moi, je suis pas forcément enthousiaste. Enfin, ça me fait pas rêver plus que ça.
On va demander à notre chroniqueur qui vient d'arriver, voilà, Nassim Bourras, justement, on parlait de l'accord. On vient jusqu'à toi, juste après, Simon. On parlait de l'accord entre le Qatar et la Fédération royale marocaine de football. L'accord propose, entre autres, l'échange d'expertise dans les domaines de l'arbitrage, la formation, la préparation des sélections nationales des deux pays qui pourront bénéficier des installations sportives existantes dans les deux nations. Sur le volet sportif, c'est aussi la possibilité donnée aux deux nations de progresser et de se structurer en vue de la future Coupe du Monde organisée par le Qatar en 2022.
Oui, bah justement, tu parles de la Coupe du Monde au Qatar en 2022. J'ai plutôt l'impression que ce partenariat, c'est une sorte de compensation, dans le sens où le Maroc aussi voulait organiser la Coupe du Monde 2022, 2026, avec le raté face aux États-Unis.
Enfin, c'est une coopération.
Oui, mais bon, ça a plutôt l'air d'une sorte de compensation, comme le Qatar a eu la Coupe du Monde 2022. Ils ont dû partir voir les dirigeants marocains leur disant, voilà, vous n'avez pas eu la Coupe du Monde. On va faire un partenariat pour que, voilà, vous êtes pas trop lésés par le fait que vous
n'avez
pas la Coupe du Monde.
Le Qatar a voté pour le Maroc, hein. Le Pardon traître dans la région, c'est l'Arabie Saoudite.
Oui, oui.
Pour
aussi.
Le Maroc.
Oui, aussi.
Donc,
mais...
sans tirer de conclusions hâtives géopolitiquement parlant, s'il y a un échelon géopolitique à placer, ou plus ou moins un prisme géopolitique à placer pour lire ce partenariat, ce serait éventuellement pour enquiquiner l'Arabie Saoudite, qui a trahi parmi les votants des pays, on va dire, arabes, pour la Coupe du Monde 2026, qui a trahi la fédération marocaine. Et pour que le Qatar enquiquine encore un peu plus son ennemi juré, l'Arabie Saoudite. J'ai pas terminé, Yacine.
Oui. Le Maroc se trouve dans le continent africain, il faut le savoir.
Oui, après le Maroc a moult partenariats avec, ouais, avec les pays arabes. Il y a par exemple la Ligue des champions arabes qui se déroule régulièrement, qui est assez active. Bon, le Qatar a, il est vrai, cette année refusé la participation pour cause d'organisation d'ailleurs. Mais l'Arabie Saoudite y est, le Maroc y est, la Tunisie y est, l'Algérie y est, la Jordanie, enfin voilà, tous les pays arabes. Donc le Maghreb et le Nord
devraient participer à refuser de déclarer officiellement.
Le Maghreb et le nord de l'Afrique se placent sur deux plateaux, sur le continent africain, mais exactement et également dans le monde arabe. C'est
Yacine, c'est un constat. Yacine, tu partages pas l'avis de Simon ?
Moi, je, comme a dit Claude, les partenariats se font et se défont au gré des intérêts. Aujourd'hui, moi, peut-être les Marocains. Nassim a dit que c'est la fédération qatari qui est partie voir les Marocains pour leur proposer une compensation par rapport à.
On ne sait pas si c'est une compensation.
Ce n'est pas après, une affirmation, c'est une hypothèse.
Oui, une hypothèse, ouais.
On peut le noter sans tirer
un partenariat sportif, quand on le fait, le Maroc, c'est un pays de football. Le Maroc, la fédération le Maroc est un pays de football. Le Qatar n'est pas un pays de football. Donc l'intérêt du Maroc de faire un partenariat avec le Qatar, peut-être des compensations financières derrière. Si on parle d'arbitrage, je n'ai jamais vu un arbitre qatari dans une grande compétition.
Là, je le disais à l'instant, il n'y a pas que l'arbitrage. Hein, notamment, il y a la formation, la préparation des sélections nationales des deux pays.
Le Qatar, on n'a jamais entendu un joueur a été formé.
La Fondation Aspire. Le Qatar a créé la Fondation Aspire.
Aspire.
Depuis une quinzaine d'années, ouais. Et travaille là-dessus. Le coach Félix Sanchez, qui vient de la Masia, qui a formé Messi, notamment, je pense. Ouais. Il vient de la Masia parce qu'il a quitté en 2006. Depuis 15 ans, ils ont formé une génération de joueurs,
ouais. Ils ont
qui est arrivé à quelque chose d'exceptionnel, c'est de gagner la Coupe d'Asie. Chez son voisin, pas parce qu'il ne l'avait jamais gagné, c'est un compte.
C'est énorme quand même.
Est-ce que c'est eux qui ont formé ou c'est les
autres? Les amis, 13 joueurs de la Fondation Aspire, seulement 4 naturalisés. Non, mais il faut le préciser. Ouais. Avant de dire le Qatar fait les choses incorrectement, etc. Le Qatar a le droit de jouer au football.
Non, on ne peut pas nous faire croire que le Qatar est un pays de football.
Non.
Mais le Qatar a le droit de devenir un joueur de pays de football.
Attendez, le débat. Yacine, excusez-moi, messieurs.
Les intérêts des uns et des autres.
Le débat n'est pas là. Le débat est sur le fait que voilà, le Qatar a signé un accord de coopération et de partenariat avec le Maroc, que le Qatar va organiser la Coupe du Monde 2022. Elle est là, cette coopération.
Un partenariat, c'est que forcément, il y a
des intérêts.
Il y a des intérêts derrière.
Oui. D'accord. Là, on parlait plus du volet sportif, le volet politique, on le connaît.
Excuse-moi de te couper vite fait, coach. En termes de sportif, je pense que le Maroc a aussi beaucoup à apprendre du Qatar. Yacine, tu parlais tout à l'heure du fait que.
Ou à apporter au Qatar.
Non, à apprendre. Parce que tu parlais tout à l'heure de la formation. Quel joueur marocain de haut niveau est sorti de la formation marocaine? Parce que les plus grands joueurs marocains qui sont sortis des formations néerlandaises, françaises.
Ah, je suis désolé.
Tu peux me sortir un nom peut-être?
Aziz Boudalbala. Le plus grand joueur marocain.
Il y a combien de temps?
Mais tu m'as dit, il n'y a aucun joueur marocain.
Non,
actuellement, récemment.
Arrête de jouer sur le mot.
Sur les 15 dernières années.
Alors je vais reformuler la question. Récemment, quel grand joueur marocain est sorti de formation marocain national?
On sait très bien que
personne.
Nassim, je suis d'accord avec toi. On sait très bien que dès leur plus jeune âge, que ce soit au Maroc ou sur le continent africain, ils sortent pas dans les clubs du
Maroc.
Du coup, on constate logiquement qu'au lieu de se faire vampiriser par
oui, mais on est en 2019, on n'est plus dans les années 80.
Au lieu de se faire vampiriser par l'Europe, le Maroc, la Tunisie, parce qu'il y a aussi des ponts qui sont en train de se faire entre la Tunisie et des pays du Golfe, le Maroc se tourne logiquement vers les pays du Golfe pour obtenir de belles infrastructures, puisqu'il y en a des belles, par exemple au Qatar avec la Fondation Aspire.
En tout cas.
Le Maroc n'est pas capable de construire ses propres installations.
Oui.
Le Maroc est un pays qui a de très très belles infrastructures.
Bah justement,
l'accord.
L'accord.
Excusez-moi, cher consultant, on s'entend plus du tout. Et je pense que pour les auditeurs et les auditrices, ça doit être aussi un problème. Faut chacun votre tour, parce que là, on était sur l'accord, on est parti sur d'autres débats. L'accord, il prévoit également la programmation de matchs amicaux entre les sélections et clubs des deux pays, dont les dates seront fixées dans une commission mixte. Est-ce que cet échange est plus bénéfique au Qatar ou au Maroc, Claude?
Au Qatar.
Mais pourquoi au Qatar, selon toi?
Sportivement, au Qatar, je veux dire, il y a pas grand-chose. Le palmarès, il reste encore vierge, même si...
Ils ont gagné la Coupe d'Asie.
Non, mais c'est bien, il faut bien commencer. Bah
oui.
Je sais qu'il y avait une équipe au hand, par exemple, aussi, ils avaient été en finale avec... bref, voilà, mais non, c'est le Qatar. C'est le Qatar qui, sportivement, a besoin d'exister, Nassim. Clairement.
Je pense pas que le Qatar soit aussi avantagé que ça. Je pense que c'est du kiff-kiff, 50-50 pour le coup. Parce que le Maroc, voilà, pour répondre à Yacine tout à l'heure, le Maroc n'a pas d'infrastructure du niveau d'Aspire. Ils ont beaucoup d'infrastructures, mais du niveau, on va dire, peut-être Ligue 2 en termes d'infrastructure. En tout cas, d'infrastructure de formation. Donc, le Maroc.
Au Qatar, ils ont des installations mieux que le Raja de Casablanca.
Non, la formation. L'infrastructure Aspire est bien meilleure que toutes les formations marocaines réunies.
Yacine.
Ah bon?
Ça, c'est un fait.
Il faut que tu me donnes un nom d'un joueur qui est sorti d'Aspire ou Aspitar. Faut que tu me donnes un nom.
Non, mais attends.
Bah, à l'inverse, il t'a demandé un nom de joueur.
La formation vient de sortir il y a 5 ans.
Des formations marocaines, il n'a pas donné.
Si les dernières années, le championnat du Maroc. Ça, c'est pour d'autres considérations. C'est la politique qui a été appliquée. Mais le Maroc reste un pays de football. Ça,
en tout cas, Yacine.
C'est un problème. Attention, le football, quand on parle de formation aujourd'hui, on va en arriver à la politique qui a été accélérée par le Maroc, les quatre dernières années. On va voir les résultats dans 2-3 ans. Ça ne veut pas dire que le championnat marocain ne produit pas de bons joueurs.
Yacine,
attention.
Yacine,
on a dit, ne nous fait pas dire ce qu'on n'a pas dit.
Le Maroc est une terre de football.
Non, mais est-ce qu'on a dit le contraire?
Yacine,
t'interdis de dire qu'on a dit ça. C'est faux.
Yacine,
on n'a jamais dit que le Maroc n'était pas une terre de football. En revanche, toi, depuis le début, tu accuses le Qatar de ne pas être un pays de football.
Ce n'est pas un pays de football.
Bah oui.
Je le dis, je le redis.
Eh bah laisse-le devenir. Laisse-le devenir un pays de football.
Le Qatar n'est pas un pays de football, il ne le sera
jamais.
Attendez, laisse-le devenir. Parler dans ses
laisse-le devenir un pays de football et il faire des partenariats.
Yacine, on va recentrer ce débat. Il y a une programmation de matchs match amicaux, puisque je vous sens assez pris. Il y a une vraie synergie dans ce studio, voilà, chers auditeurs, chers auditrices. Si vous nous rejoignez, évidemment, vous pouvez réagir au 01 53 48 30 00 ou avec le hashtag TimeSport sur Twitter et sur Facebook. Alors, cette programmation de matchs amicaux, est-ce que cet échange il est plus bénéfique au Qatar ou au Maroc, Yacine?
Le Maroc va jouer le Qatar, ça l'avance en quoi? C'est l'une des je ne comprends pas. Il y a aucun, peut-être pour les Qataris, ils ont un intérêt. C'est eux qui auront peut-être le plus de bénéfices. Mais le Maroc, c'est une grande nation de football. C'est les intérêts, c'est de jouer l'Argentine, le Brésil, la France, l'Espagne, l'Italie. C'est là où l'intérêt du Maroc. Le Maroc doit élever son niveau. Peut-être s'ils ont fait un contrat, c'est qu'ils ont. Il y a des avantages financiers, mais sur le plan sportif, le Maroc, il a encore 100 ans d'avance par rapport au Qatar. Je le dis, je l'assume.
Donc pour
je
toi...
le dis, je l'assume, tout simplement. Parce qu'il y a une terre de football, il y a une terre qui n'est pas faite pour le football, tout simplement.
La question, c'est pas la terre de football ou pas. Simon, est-ce que c'est plus bénéfique au Qatar ou au Maroc, justement, cet accord, au final?
Eh bien, j'ai envie de dire aux deux, moi, puisque moi, je suis d'accord avec Nassim sur le fait que le Maroc va pouvoir profiter parfois de très belles infrastructures côté Qatari, que le Maroc étant une ancienne terre de football traditionnelle, historique, sur le continent africain et du point de vue mondial, personne ne le conteste. Le Qatar va profiter justement de cet échange culturel pour pouvoir s'abreuver de ce qu'est la culture du foot. Car le football, mon cher Yacine, je n'ai pas terminé. Le football est universel. Le football est universel, il ne demande qu'à être partagé.
Ouais.
Alors autant les Qataris, tu peux leur reprocher d'avoir de l'argent, de faire les choses d'une certaine manière, mais on ne peut pas les empêcher de vouloir devenir ou de vouloir apprendre le football.
Claude.
C'est ce que les rugbymen font, enfin la fédération de rugby fait en étant extrêmement fermée pour essayer d'accueillir de nouvelles nations au sein de la Coupe du Monde, au sein de ces tournois majeurs, et c'est détestable. Alors, n'ayons pas le même comportement avec le football et par exemple avec les Qataris. Donc, les Qataris ont le droit de devenir un pays de football et c'est pour ça que ça peut profiter aux Qataris.
Claude, un petit mot, une petite réaction, je te voyais, t'avais envie de réagir.
Petite réaction, oui, non, mais j'entends un petit peu tout, mais le Qatar n'a jamais participé à la Coupe du Monde de football.
Non, mais ils vont organiser quand même une.
Ils ont déjà participé ou pas?
Non, mais
voilà.
Non, non mais donc, la question, elle est pas là.
Organiser, heureusement.
Il y a un accord.
Si on n'est pas là, on pose la, tu poses la question de savoir à qui ça apporte le plus sportivement. Clairement, ça apporte au Qatar en termes d'infrastructure. Je suis d'accord. Les grands clubs vont au Qatar, vont faire leur préparation, etc. Mais on le sait. Mais sportivement, le Qatar a besoin d'exister. C'est tout à fait normal. Voilà.
À la Copa América, et ça c'est pas un hasard non plus, c'est pour se placer sportivement, ça fait office de sparring partner, c'est, ils sont là pour apprendre et ils sont en train d'apprendre.
En tout cas, Yacine, pour toi,
sportivement,
pour toi le Qatar forcément c'est un plus pour eux quand même, tu peux pas leur retirer ça.
C'est rien du tout. Moi, pour un pays comme le Maroc, s'il a envie de progresser, les partenariats, ça se fait avec la France, avec l'Espagne, avec le Brésil, avec l'Argentine. Et après, s'il y a des intérêts économiques, autant on en profiter. Et puis c'est tout, voilà. Après, ils n'ont rien à gagner. L'Algérie a fait ce contrat en 2010 avec le Qatar et ça n'a absolument rien donné. Voilà, tout simplement. Donc aujourd'hui, c'est très grave. Un footballeur algérien se blesse. Il va partir se soigner à Aspeta, alors que l'Algérie est capable de construire le plus grand hôpital sportif moderne qui puisse exister. Donc aujourd'hui, on va rentrer dans d'autres détails dans lesquels on va. C'est plutôt une politique économique d'un pays.
Claude, tu voulais réagir un peu au propos de Yacine, c'est ça ?
Non, surtout que là, on parle beaucoup du football arabe. Va avoir une superbe exposition à l'Institut du Monde Arabe à partir du 10 avril.
Tu fais bien de le préciser.
Voilà,
c'est une très belle chronique, ça.
Donc là, ça. Bah oui, mais. Comment ? Football arabe.
Ouais, faisait football arabe.
Jusqu'en juillet. Donc je vous conseille d'y aller. Et là, on aura tout le temps de débattre et d'en savoir un petit peu plus.
On aura finalement clôturé ça avec une petite promotion pour l'Institut du Monde Arabe avec. Notre coach Claude Tollet. Restez connectés sur BeurFM, on se retrouve dans quelques instants, cette fois-ci pour parler VTT avec le coordinateur général de la MB Race, la course de VTT la plus difficile au monde. A tout de suite sur BeurFM.
18h-19h, Time Sport avec Guillaume Ascari sur BeurFM. Musique, cinéma, théâtre, danse, expo.
Tu ne voulais pas te couper avec les habitudes du maître.
Je suis qu'un petit élève.
Après 40 ans de carrière. Je reçois ce soir Afrokane, un groupe de rock. Info sur Beurre FM, on découvre son album.
Tout à l'heure, on a écouté Yazina de Rainer Rai.
Plus loin que me revient.
Entre nous.
Quand je parle de mon enfance, bois que cher banane, hachemour, banane, khafour.
Merci beaucoup et merci à tous vos auditeurs et sincèrement un grand merci à Beurre FM.
19h-20h, Café des artistes, le magazine de toute l'actualité culturelle avec Mourad Achour sur Beurre FM. Sur Beurre FM. Sur Beurre FM. 18h-19h, Time Sport avec Guillaume Ascari sur Beurre FM.
Et vous êtes de retour sur Beurre FM et sur Time Sport avec les consultants, notre coach Claude Tollet, Nassim Bourras, Simon Balachef et notre Yacine Bouali national. Évidemment, on a parlé du Maroc et du Qatar, évidemment, de partenariat. Et c'est à ce moment-là que Claude nous a parlé du foot et du monde arabe. C'est une exposition, la révolution du ballon rond du 10 avril au 21 juillet 2019. C'est à l'Institut du Monde Arabe. Voilà, c'est quelle est la place du football dans les sociétés arabes. Ça nous en dira peut-être un peu plus sur ce partenariat, pourquoi pas. En tout cas, on va enchaîner avec notre invité. L'invité du jour, c'est Bruno Brancato, coordinateur général de la MB Race. C'est parti pour un quoi, mais vrai.
Time Sport.
Et si c'est incroyable mais vrai, évidemment, c'est pas parce qu'on est avec Bruno Brancato, bien sûr, puisqu'on est content de le recevoir, le coordinateur général de la MB Race, mais c'est surtout parce qu'on va parler de VTT. C'est le VTT qui a l'honneur aujourd'hui dans Time Sport. La course, la MB Race, on dit que c'est la course de VTT la plus difficile au monde. On en parle tout de suite avec notre invité. Bruno, bonsoir Bruno.
Bonsoir.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Donc en juillet prochain, la MB Race célébrera sa 10e édition. Est-ce que vous pouvez nous retracer un peu son évolution et de sa genèse à aujourd'hui ?
Oui, la course aura lieu les 6 et 7 juillet prochains à Combloux. La course a été lancée, l'événement a été créé en 2010 par deux personnes, Vincent Azout et Stéphane Picot, qui ont eu l'idée de créer une course, un ultra-marathon sur les pentes des ports du Mont-Blanc. Donc ça regroupe trois distances, 70, 100 et 140 km. Et cette course à vocation, en fait, c'est un défi pour les participants. Ils se lancent tous à 6h du matin et ils choisissent la distance pendant la course.
Et donc, et, Et donc du coup, comment s'est-elle vue attribuer voilà, cette distinction de course de VTT la plus difficile au monde ?
Dès la première année, on a eu un peu plus de 1000 inscrits. Et on a eu un seul finisher sur cette distance ultime, sur le 140 km, avec 7000 mètres de dénivelé positif. Et en fait, ça a créé un petit peu le...
Excusez-moi Bruno, je vous coupe pour les non-initiés, qu'est-ce que ça veut dire, dénivelé positif ?
Dénivelé positif, c'est de la montée, en fait.
Tout simplement.
Tout simplement, ouais. D'accord. C'est le dénivelé cumulé sur 140 km en montée.
Mmh. Et comment vous expliquez du coup l'engouement pour le grand public et les spécialistes de ce phénomène des courses ultra en général pour ce besoin de dépassement de soi, c'est ça ?
C'est ça, oui. C'est un peu comme l'ultra trail, donc la course à pied en fait, comme une course qui est assez connue dans notre région qui est sur Chamonix. C'est l'ultra trail du Mont Blanc, à l'instar de cet événement dans une discipline différente, mais dans la même approche, c'est plutôt les gens s'inscrivent pour se lancer un défi sur eux-mêmes et essayent de dépasser un petit peu leurs limites. Il y a bien entendu sur nous, on regroupe, on a 1300 inscrits sur la ligne de départ. Et sur les 1300, on a à peu près 10% qui arrivent à aller jusqu'à 140 km.
Donc ça attire les curieux, c'est ça, ça attire un peu tout le monde. Le rendez-vous cette année, c'est à Combloux, c'est ça, du 5 au 7 juillet. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ?
Oui, donc ça sera cette année, c'est à Combloux. C'est la 10e édition, donc beaucoup de surprises et de nouveautés pour fêter ça avec tous nos bénévoles, tous les participants et puis toutes les collectivités, les institutions sur place. La journée, donc l'événement commence le vendredi à 14h, où là les personnes viennent retirer leur dossard. Et après notre course phare, donc c'est MB Ultra, attaque à 6h du matin le samedi matin. Et se prolonge toute la journée avec les derniers arrivants qui finissent vers 22h30.
Bruno, on a une petite question. Enfin, Nassim Bourras, notre chroniqueur, il a une petite question à te poser.
Oui, bonjour. Je voulais savoir, en fait, si demain j'ai envie de m'inscrire à la course pour y participer, est-ce qu'il y a des qualifications ? Est-ce qu'il y a des conditions préalables ?
Bonjour. Non, pas du tout. C'est une course, donc c'est ouvert à tout le monde. Il nous faut simplement un certificat médical si vous n'êtes pas licencié de la Fédération française de cyclisme. Et c'est un peu d'entraînement, de la motivation et puis un bon mental, j'ai envie de dire, pour arriver au bout.
Et donc du coup, quand par exemple si quelqu'un de lambda qui s'inscrit, il y a 8 épreuves qui lui sont proposées, on doit tous les faire, les épreuves.
Non, il y a cette épreuve-là le samedi, donc c'est MB Ultra qui va de 70 km à 140 km. Et le dimanche, on a 6 autres épreuves. Donc on a une course pour les enfants, la MB Kids. On a 55 km, la MB Explore, qui est une distance c'est les meilleurs sentiers qu'on peut proposer sur une distance un peu plus raisonnable, sur 55 km. On a une randonnée électrique également, qu'on propose sur une distance de 35 à 55 km. On a une course de 20 km, la MB First, elle permet de découvrir un petit peu le territoire sur 20 km, sur cette distance-là, avec un paysage de fou. À savoir, on est vraiment face au Mont Blanc pendant la totalité du parcours. Donc on est vraiment dans un environnement assez, assez magique.
Yacine Bouali qui veut poser une petite question également.
Oui, bonsoir.
Bonsoir.
Là où on qualifie d'une course des plus difficiles, et vous contentez uniquement d'un simple certificat médical pour la participation tout en sachant que dans ce genre de course, il y a énormément d'efforts à fournir.
Oui. On a donc le certificat. Alors, on a majoritairement des personnes qui sont déjà licenciées, donc dans différentes fédérations liées au cyclisme. Après, les personnes qui nous fournissent le certificat médical s'entraînent régulièrement et ont aptitude au vélo.
On va finir avec une dernière question, Bruno. Est-ce que la MB Race, dans son histoire, elle s'est toujours passée en France ? Et est-ce qu'un jour, elle sera possiblement délocalisée dans un autre pays ?
Bonne question. On a depuis là, c'est la 10e édition. Ça sera la 10e édition qui aura lieu en France. Après, voilà, c'est vrai que ça nous tient à cœur de la garder sur face au Mont Blanc, ce qui fait aussi son originalité. Et puis, voilà, ça crée vraiment cette notoriété qui autour de la Ember Race. Après, peut-être développer ce label Ember Race, la qualité d'organisation qu'on a dans d'autres pays, pourquoi pas, on reste pas fermé.
En tout cas, merci Bruno pour Bruno Brancato, coordinateur général de la Ember Race. Je rappelle la course de VTT la plus difficile au monde. Merci pour cette interview que les auditeurs pourront retrouver évidemment sur le site beurrefm.net. Et je rappelle que le rendez-vous, c'est du 5 au 7 juillet à Combloux et Gève pour la 10e édition. Merci Bruno. Merci. On va enchaîner après le VTT, on va parler du football et notamment d'un autre partenariat entre l'Ajax et Barcelone, c'est la victoire.
Time Sport, la victoire.
Et oui, la victoire, ça pourrait être celle de Marc Overmars qui confirme un probable partenariat entre l'Ajax et le FC Barcelone après la signature de Frankie de Jong. Les rumeurs qui envoient Matisse de Ligue au Barça, le directeur sportif de l'Ajax Amsterdam, Marc Overmars, a révélé au quotidien sportif Voetbal Zone que le club néerlandais pourrait signer prochainement un partenariat avec le club catalan. Donc s'agit-il, est-ce que c'est un effet gagnant-gagnant pour les deux parties, Nassim?
Déjà, j'y crois absolument pas à cette rumeur, dans le sens où qu'est-ce que l'Ajax Amsterdam, un club de ce niveau-là, de ce standing-là, va faire un partenariat avec le Barça, à la limite un partenariat économique, pourquoi pas, mais un partenariat comme pourrait le faire un top club avec une équipe de deuxième division pour des prêts de joueurs, j'y crois absolument pas. Ce sont deux clubs qui jouent la Ligue des Champions, deux clubs au palmarès incroyable, à l'historique fantastique. Donc, voir l'Ajax se rabaisser à un simple club prêteur, un simple club fanion du Barça, non, j'y crois pas. C'est vrai qu'il y a un historique de transfert entre les deux clubs. Souvent, beaucoup de joueurs de l'Ajax sont partis signer au Barça, la preuve avec De Jong cet hiver. Donc, moi, je pense plus à un partenariat économique plus qu'un partenariat sportif entre les deux clubs.
Simon.
Moi, je pense que le partenariat sportif, il est possible. Je le dis d'un point de vue, voilà, c'est un simple constat. C'est ce qu'a dit Marc Overmars. L'histoire entre ces deux clubs, elle est très très ancienne. Hein, elle date des années 70 déjà. Rinus Michels, avant même que Cruyff vienne, arrive exactement. Pour ceux qui ne savent pas qui est Rinus Michels, c'est l'avant Cruyff, c'est le papa de Cruyff, c'est vous dire, footballistiquement. Moi, j'y crois sportivement parce que c'est un aveu de faiblesse et on y va vers ce football européen-là. L'Ajax n'est plus ce que tu dis. L'Ajax est un monument. Est un monument du football, mais un monument un petit peu calcifié.
Était un monument.
L'est encore, mais calcifié. Voilà, calcifié. C'est une statue. C'est une statue, l'Ajax. Mais est-ce que c'est encore un monument vivant? Malheureusement, non, ou de moins en moins. Et l'aveu de faiblesse, c'est en effet de voir que le Barça, le Real, ce genre de clubs vont faire de clubs mythiques comme l'ont été, comme devrait l'être l'Ajax, des simples clubs pouponnières.
Simon, derrière cet accord, on pourrait se poser la question, est-ce que pour les grands clubs, à l'avenir, c'est une nouvelle manière de baisser la pression inflationniste des transferts et de gérer d'une certaine manière les contraintes du fair play financier? Yacine?
Ouais, après, ce genre de partenariat, ça pourrait exister. Même, je pourrais être d'accord avec ce qu'a dit Nassim ou ce qu'a dit Simon. L'Ajax, il fut un grand d'Europe, oui, mais il n'est plus aujourd'hui, même s'il revient au devant de la scène européenne. Mais l'aspect financier, dans ce genre de truc, peut se faire comme où ils sont au l'Ajax, quand on va prendre par exemple les clubs belges, le Standard de Liège, Anderlecht, qui étaient des clubs mythiques dans les années 70, même dans le début des années 80, ils ne le sont plus. Le Standard peut devenir un club pouponnière du Milan ou de la Juventus. Le Standard de Liège a un partenariat avec l'AS Monaco pour lui fournir des joueurs et les mettre...
Donc t'y crois.
C'est un échange gagnant-gagnant. Et sans enlever au mérite de l'Ajax, ça reste aussi un grand club dont le Barça pourrait en profiter. Donc je pense que ça pourrait se faire.
Claude?
Moi, je pense que ça va se faire. Je pense que ça va se faire quand tu vois le centre de formation du Barça. il a évolué avec ce qu'a apporté Johan Cruyff. Hein.
Avant, ouais. il a pris...
Et Rinus Michels.
C'est lui le père
Rinus Michels, c'est
de
important.
Total. C'est lui qui a mis les fondements du
Barça. Exactement.
On est d'accord, mais ce football-là...
C'est Rinus Michels.
D'accord, mais je veux dire c'est
il est marquant, ce football.
C'est même, comment
il est marqué,
bien sûr.
Bah bien sûr.
Juste
mais c'est pour ça que je rappelais le lien historique entre l'Ajax et Barcelone.
Mais
l'identité,
mais c'est pour cela que
l'identité du Barcelone actuel, c'est l'Ajax d'Amsterdam.
C'est pour ça que l'aspect économique.
C'est pour cela que cette histoire
comme
de.
Tu viens de le dire, pour contourner le fair play financier, aujourd'hui, ça va coûter beaucoup moins cher de former pour le Barça un joueur qui est à l'Ajax, un joueur hollandais, que de le ramener à la Masia.
Je vous coupe. On aura le temps d'en reparler, évidemment, de ces partenariats, puisque c'est improbable, évidemment, partenariat entre l'Ajax et le FC Barcelone. C'est pas encore fait. J'aimerais parler avec toi, Nassim, un peu du président de la Fédération allemande de football qui a démissionné ce mardi.
Oui. Annonce qui était déjà sortie le 1er avril, mais bon, on pensait justement que c'était un poisson d'avril pour le coup. Alors que non, pas du tout. C'est justement.
Reinhard Grindel. C'est pas facile à dire. Voilà, il a accepté.
Ouais.
Voilà,
je ne maîtrise pas encore.
Faut rappeler, il a accepté un cadeau luxueux. Voilà, une montre d'une valeur de 6000 euros de la part d'un collègue ukrainien, Grigory Surskis, vice-président de l'UEFA, et a avoué qu'il n'en connaissait pas la valeur.
Mais il y a pas que ça justement, parce que ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, parce qu'il y avait déjà le cas Ozil et Gundogan. Avant la Coupe du Monde, qui a été très très mal gérée. On le rappelle, c'était avec le fait que ces deux joueurs aient posté une photo en compagnie de
du président
Erdogan, du président Erdogan, qui avait été très très mal vu en Allemagne. Derrière, il avait pris des positions claires et directes. Ça avait mené à une Coupe du Monde désastreuse. On le rappelle, l'équipe d'Allemagne a été éliminée de la phase de groupe.
Ça te surprend pas ?
Ça me surprend pas tellement, mais après, le timing est encore une fois mauvais, puisque. Il aurait dû être viré dès à la fin de la Coupe du Monde, alors que là, on a attendu quand même plus de 6 mois pour qu'il puisse partir de son poste. Après, on parle d'une possible arrivée de Philippe Lahm à son poste. Après, je ne suis pas sûr, parce qu'il ne faut pas oublier que Philippe Lahm est président du comité de l'organisation de la Coupe d'Europe 2024.
En tout cas, il y aura un vote dans les prochains jours pour, évidemment...
Il faut savoir qu'en Allemagne, sur les affaires de justice, on rigole pas. Hein. C'est dès qu'il y a un moins de 600...
C'est direct.
Hein,
c'est... Lyonnais en avait fait les frais il n'y a pas longtemps.
Voilà, et donc tu nous confirmes bien, c'était pas un poisson d'avril, évidemment, la démission du président de la Fédération allemande. Restez connectés sur Beurre FM dans quelques instants. On va parler Ligue 1, et notamment du match hier à Geoffroy Guichard entre Saint-Etienne et Nîmes. On parlera également de la Coupe de France. Lyon-Rennes, c'est ce soir, 21h10. À tout de suite sur Beurre FM.
18h, 19h, Time Sport avec Guillaume Ascari sur Beurre FM. 18h, 19h, Time Sport avec Guillaume Ascari sur Beurre FM.
Et on est de retour sur Time Sport et sur Beurre FM avec les consultants, notre coach national Claude Tollé, Nassim Bourras, Simon Balachef et Yacine Boily. On a parlé évidemment des partenariats, voilà, celui de l'Ajax, enfin du probable partenariat entre l'Ajax et Barcelone, ou encore celui-là, il est validé, entre le Qatar et la Fédération Royale Marocaine de football. On a parlé aussi de VTT avec notre invité Bruno Brancato, qu'on remercie d'ailleurs. Et là, on est parti pour parler de la Ligue 1. C'était le duel, c'était hier, Saint-Etienne-Nîmes. C'est parti.
Time Sport. Le duel. Le duel.
Et le duel, il a été remporté par Saint-Etienne, hein, les supporters stéphanois qui peuvent avoir le sourire. Voilà, la Saint-Etienne qui s'est imposée face au Nîmes Olympique lundi en clôture de la 30e journée de Ligue 1. Voilà, une victoire qui, conjuguée au match nul de l'Olympique de Marseille samedi face à Angers de partout, permet aux hommes de Jean-Louis Gasset de retrouver la 4e place du championnat. Menés au score en tout début de match, les Verts ont renversé la situation grâce à des buts de Rémi Cabella et Robert Béric. Un petit mot sur cette rencontre, Assim, tu l'as vu ?
Oui, je l'ai vu, en tant que supporter nîmois, voilà, c'est un petit club de cœur en France. Voilà, déçu par le scénario du match, puisque voilà, comme tu l'as dit, ils ont su marquer dès la deuxième minute, profitant d'un manque de concentration des Stéphanois. Après, derrière, ils ont subi la domination stéphanoise, ils ont eu beaucoup de mal. En défense, ça a tenu plutôt le coup. J'étais quand même satisfait de la prestation défensive des Nîmois, notamment de Bernardoni, qui confirme semaine après semaine que c'est un bon gardien et que c'est un très grand gardien en devenir. Par contre, sur le plan offensif, il y a eu des soucis côté Nîmois. Je vais plus parler du côté Nîmois. Notamment le cas Oumoud Bozok, parce qu'il faudra qu'on en parle. Deux buts cette saison, c'est un réel problème quand on sait que ça a été un leader offensif la saison dernière pour la montée des crocos. Donc voilà, il faut qu'on se pose, enfin, il faut que les Nîmois se posent la question du possible remplacement de Bozok, parce que ça peut plus tenir comme ça. C'est vrai qu'il a été très bon et même essentiel à la montée de Nîmes l'an passé, mais il faut passer à autre chose parce que c'est un poids mort pour l'équipe. Il faut pas oublier qu'il avait été mis de côté par le staff Nîmois lors du mercato d'hiver en vue d'un possible transfert. À mon avis, dans sa tête, c'est toujours pas réglé. Il y a toujours ce souci. Il est pas au top. Et il faut que Nîmes puisse trouver une solution d'attaque, parce que sinon ça va être difficile pour essayer, pourquoi pas, de trouver une place en Europa League.
En tout cas, la bonne opération, elle est pour Saint-Etienne, évidemment, je le rappelle, qui retrouve la quatrième place du championnat. Tu l'as vu le match, Simon ?
Oui, tout à fait. À propos des crocodiles, ce qui aura aussi de très compliqué, hein, au-delà du cas Oumout Bozok, ce sera de confirmer. Parce que là, clairement, les hommes de M. Blacard sont en train de surfer sur cet effet un petit peu promu, cet effet de fraîcheur qui vous fait très bien jouer. Il y a probablement énormément de joueurs dans le lot qui sont peut-être en sur-régime, et très très bien pour eux. Mais généralement, ce genre d'équipe, et on prend énormément de plaisir à les voir jouer cette année, souvent la seconde saison parmi l'élite est bien plus compliquée. Donc on verra ça, au-delà du cas Bozok. Côté stéphanois, c'est une victoire un peu difficile, mais qu'on l'a dit, hein, gagner Nîmes cette année, c'est pas une
voilà. Dans les dernières minutes, la 81e. Dernières
minutes. Merci Berić, et d'ailleurs Robert Berić. Statistiquement, on peut parler de son activité parce que c'est vrai que on peut parler de son activité parce que c'est pas tout à fait esthétique. Mais après, c'est un pur avant-centre comme le son de Giroud,
Claude. Pivot, vas-y Claude. Je pense même qu'il n'est pas titulaire parce que voilà, c'est une question de profil. Ouais. Mais c'est vrai que malheureusement, il avait été blessé lors d'un Lyon Saint-Etienne il y a quelques saisons. Ça l'a coupé dans son élan.
Jordan Thierry qui était sur le terrain. Et
exactement, mais c'est un vrai pur attaquant.
En tout cas,
j'aime efficace.
Et attends, pour terminer, par contre, voilà, ce qui est important côté Saint-Etienne, c'est cette victoire malgré la cascade de blessés. Hein. Il y a l'effectif de la Saint-Etienne est miné par les blessures. Alors oui, il y a des satisfactions. Il y a Berić, il y a Nordin qui fait tout à fait le travail
de
supplément. Cabella, il agace un petit peu quand même chez les supporters. Le seul regret, c'est que si Saint-Etienne arrive à terminer quatrième de ce championnat, ce sera sans jamais avoir fait un vrai résultat, à part une victoire contre l'OM, contre l'un des top 5.
Et ben, en tout cas, la transition, elle est toute faite, Simon, puisque justement, j'allais poser la question à Claude avant de la poser à Yacine. Les Verts possèdent un point d'avance sur l'OM. Sont-ils en mesure de tenir la dragée haute à l'OM, justement, jusqu'à la fin de la saison ?
Ils en ont les moyens, t'es 4e à 30e journée, oui. T'en as les moyens. Après, ils ont pas fait preuve d'une plus grande constante comme la majeure partie des équipes du championnat, hormis les trois premiers. Mais oui, quand tu vois ce que l'OM,
un point d'écart,
est capable de faire, laisser deux points comme ça. Face à Angers, encore, ils auraient pu le perdre ce match. Saint-Etienne a tout intérêt à jouer le coup à fond, carrément.
Yacine,
c'est question de profondeur de banc. C'est dans les dernières journées, c'est ce qui va faire la décision. Quand on voit le nombre de blessés à Saint-Etienne, j'espère qu'ils vont récupérer le maximum.
Beaucoup trop de longue période.
Donc c'est l'effectif qui fait la différence à ce niveau-là. Mais je pense l'OM est avec ils ont fait le mur recrutement pendant le mercato d'hiver d'ailleurs.
Avec Balotelli. Et
sur le plateau, Balotelli, ça va être l'homme de la situation. Ce qu'aurait dû faire Nîmes, c'est de prendre un véritable avant-centre. Ils auraient dû même prendre Balotelli.
Balotelli,
ils auraient dû gagner avec lui.
Ils auraient pu prendre Jean-Luc Balotelli, qui évolue en Corse.
Magnifique. Très belle référence.
Jean-Luc Balotelli.
C'est son frère.
mais je pense que l'OM, malgré le match qu'ils ont fait contre Angers, d'ailleurs.
Ils finiront quatrième.
Ils peuvent même finir troisième.
Faut pas oublier Reims, hein. Reims qui est en chasse-patate, comme on dit.
Ils ont un match en moins à Reims. Hein.
Ils ont un match en moins et qui font une très bonne saison. En tout cas, là où Saint-Etienne et Marseille sont attendus à ces postes-là et vont peut-être douter, etc., ça va gamberger. Les Rémois, ils ont tout à jouer et eux, peut-être qu'ils auront le mental pour y aller.
Tu fais bien de le rappeler, Simon. Évidemment, il y a Reims et il y a surtout Paris, Lyon, Marseille, Saint-Etienne, Montpellier encore dans la course. On va passer cette fois-ci à la Coupe de France et surtout le match de ce soir entre Lyon et Rennes. C'est au Groupama Stadium, c'est le mode pressing.
Time Sport, le mode pressing.
Et oui, comme je le disais, Lyon-Rennes ce mardi en demi-finale de la Coupe de la France, la Coupe de France, et la première demi-finale, c'est à 21h10 au Groupama Stadium où Pouattem et Ben Arfa et Nabil Fekir, c'est l'occasion d'une demi-finale pour briller puisque ces deux joueurs à l'immense talent et potentiel, ils se connaissent, hein, ils vont nous régaler eux qui effectuent pour des raisons différentes des saisons un peu contrastées. Nassim.
Ça va être un match intéressant. Rennes est à sa place en demi-finale. J'oublie pas leur prestation en Europa League. Ils ont fait quelque chose d'intéressant malgré l'élimination derrière contre Arsenal. Pour les deux joueurs, notamment Ben Arfa, ça va être encore une fois une nouvelle preuve. Non, une nouvelle preuve pour lui de montrer tout son talent à son ancien club. Après, je sais pas si...
Rennes a les moyens. Quand on voit ce qu'ils ont fait en Coupe Europa, ils peuvent très bien aller...
Ils ont les moyens, mais le souci, c'est qu'en face, il y a Bruno Genesio. Et Bruno Genesio, on ne sait jamais de quoi il est capable. Il est très, très capable de ramener une Coupe avec Lyon, comme il est capable aussi de perdre ce match avec Rennes. Donc, elle est là, l'incertitude de ce match. C'est que Lyon n'est pas fiable d'un point de vue... D'un point de vue régularité cette saison, et même sous l'ère Genesio, c'est leur point faible, c'est la régularité. Je ne sais pas s'ils vont être capables de remporter ce match, sachant que les matchs Lyon-Rennes sont des matchs en règle générale assez serrés, où on ne sait pas forcément qui va l'emporter avant la rencontre. Donc je ne me permettrai pas de mettre une pièce dans ce match-là, mais ça va être en tout cas un match intéressant, ça c'est une certitude.
Coach, un petit mot sur ce match, la troisième confrontation en 4 mois entre Lyon et Rennes, entre Genesio et Stéphane. Voilà, évidemment, il y aura du jeu puisque ça risque de ne pas être facile pour Rennes.
Ça risque de ne pas être facile pour Rennes, ça risque de ne pas être facile pour Lyon aussi. À l'instar de Lyon, Rennes aussi est une équipe assez imprévisible avec un potentiel offensif assez intéressant, mais qui manque de constance sur la durée. Maintenant, ils sont très bien capables de les mettre en difficulté et d'aller se qualifier. Ils ont les joueurs pour. On parle de Ben Arfa, mais il y a Ismaïl Assar, il y a.
Tu vois Rennes passer face à Lyon.
Ils ont le potentiel, bien sûr. Mais après, c'est une demi-finale de Coupe de France à jouer à Lyon. Tu me parles de Ben Arfa et de Fekir. Fekir réussit quelques coups en Ligue des Champions, mais c'est vrai que.
Il est régulier.
Depuis
que ça. Ça,
il a été, moi pour moi il a été très bon la première saison avec la Casette, ouais. puis là il a surfé sur la seconde saison, il se blesse. C'est ça. Au retour il revient quand même assez fort. Après au très haut niveau par rapport à ce qu'on attend de lui, je pense qu'on est un petit peu trop pressé, j'ai le sentiment. Je pense qu'il faut attendre encore.
En tout cas,
c'est un bon joueur, mais c'est pas encore le joueur
qu'on attend.
Exactement, clairement.
En tout cas, tu es optimiste pour Rennes, voilà, qui affronte ce soir Lyon.
En tant que Breton, je suis optimiste.
Eh ben, c'est parfait. En plus, et après, peut-être qu'ils rencontreront soit le PSG, soit Nantes. C'est demain 21h. Un petit mot, Simon, sur ce match entre Lyon et Rennes, 21h10 ce soir.
Rapidement, je pense qu'il faut vraiment avoir le nez creux et être bien avisé pour donner le gagnant ou se prononcer sur le gagnant de ce match. Parce que, allez, si Lyon a un léger avantage par son statut de club européen et sa place en championnat et puis le talent de son effectif, ça fait déjà beaucoup, remarque, comme avantage. Les dynamiques des deux clubs et les performances de Rennes cette année, ma foi, font que c'est pas évident de savoir qui en sortira.
Yacine, un mot vite fait sur cette rencontre, on conclut.
Moi, je dirais un mot, ce soir, c'est Rennes qui va se qualifier.
C'est Rennes qui va se qualifier.
Rennes-Nantes, tiens.
On va voir demain si c'est. Après-demain. En tout cas, le rendez-vous, c'est 21h10 entre Lyon et Rennes. Voilà, c'est la première demi-finale de Coupe de France. Merci à vous, chers auditeurs, chères auditrices, de nous avoir suivis pendant une heure. Voilà, comme chaque jour, du lundi au vendredi, de 18h à 19h. Merci aux consultants Claude Tollet, Nassim Bourras, Simon Balachef et Yacine Bouali. Et puis à notre réalisateur Yanis. Voilà, on se retrouve demain, 18h, 19h, sur Beurre FM.
18h-19h, Time Sport avec Guillaume Ascari sur Beurre FM.